Merci Stéphane et bonjour à tous, chers frères et sœurs. Lundi dernier, je ne sais pas si vous y avez été attentif, il y a une information qui a été relayée dans les médias du monde entier procédait de deux hôpitaux américains. Trois paraplégiques ont pu remarcher grâce à une technique tout à fait innovante. On a implanté des électrodes dans leur moelle épinière et ensuite on les a soumis à de longues séances d'entraînement, de rééducation et de l'ordre d'un an et demi. Et ils ont pu faire des pas et vous voyez à l'écran ce que ça a pu donner. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire et nouveau. Cet homme était paraplégique, il n'avait jamais pu rebouger ses jambes, et au travers de cette technique, donc, il a pu remarcher une centaine de mètres. Alors, sans rien enlever à l'espoir que fait naître cette technique, et nous demandons que le Seigneur donne de l'intelligence à tous ceux qui font des recherches dans ce domaine pour que des gens paralysés puissent remarcher, je voudrais vous renvoyer à un texte dans l'Écriture, dans Jean, au chapitre 5, où il a suffi à Jésus de dire une phrase pour qu'un homme remarche, et remarche d'une façon autre que celle-ci, bien évidemment. « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et on va lire ce texte, si vous voulez bien. Sachez tout de même que sur le cœur ce sujet de prédication bien avant cette annonce, mais elle est arrivée à propos et je me suis dit une bonne illustration pour commencer. Après cela, donc dans Jean chapitre 5, versets 1 à 14, si vous voulez lire avec moi. « Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Ne soyez pas étonnés, je suis au verset 5. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, les Juifs dirent alors à celui qui avait été guéri, mais c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, « Mais qui est l'homme qui t'a dit « Prends ton lit et marche » ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Simplement ce texte. Et avant que nous puissions en discuter un petit peu, méditer sur ce texte, voir un petit peu ce qu'il nous apprend, je voudrais que nous nous mettions bien dans le point de vue de l'auteur, de Jean, qui a écrit cet évangile, et qui, à la fin de l'évangile, dit un peu quel était son objectif. Jésus, c'est dans Jean au chapitre 20, versets 30 et 31, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, cet évangile. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean a adopté un point de vue bien précis. Il nous explique que son évangile procède d'une sélection des miracles que Jésus a faits. Et il n'en rapporte que sept de ces miracles dans un but bien particulier. Que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que nous, en croyant en lui, nous ayons la vie en son nom. Dans ce choix qu'il a fait, il y a donc quelque chose qui est bien spécifique. Ce miracle que nous venons de voir ici est le troisième qui est relaté dans l'évangile de Jean. Il suit une précédente guérison, il y a trois guérisons relatées dans cet évangile, il suit une précédente guérison qui est le fils de l'officier royal dans Jean au chapitre 4, et il précède une autre guérison qui est bien connue aussi ce récit dans Jean chapitre 9, c'est la guérison de l'aveugle né. Et ces miracles que nous trouvons dans l'évangile de Jean, Jean les qualifie de signes, ce n'est pas le mot habituel utilisé pour miracle. Et donc pour Jean, dans sa sélection, il y a l'intention, en plaçant ces miracles dans son évangile, de planter comme des poteaux indicateurs qui pointent vers la puissance, la gloire de Christ qui est venue de la part de Dieu pour notre rédemption. Et lorsqu'il parle de guérison, il présente là un avant-goût des bénédictions finales qui sont à venir, et des bénédictions intégrales, d'un salut intégral, mais pas simplement du corps, que Dieu veut nous accorder lorsque Jésus reviendra. Et ces guérisons des maladies physiques qu'il relate ici, elles ne sont que l'expression un peu extérieure, visible, d'un salut beaucoup plus complet de la personne tout entière et de son cœur et de son âme en particulier. Et donc, je précise cela parce que c'est le point de vue que j'adopterai dans le développement que nous allons faire ensemble de ce texte ici. Pardon. Je ne vais pas m'étendre longtemps sur la partie descriptive de ce miracle, parce que pour tous ceux qui fréquentent des groupes de quartier, vous savez que l'année passée, nous l'avons étudié avec l'ensemble des autres sept signes de l'évangile de Jean. Mais ici, nous sommes donc un jour de fête. Mais ce n'est pas jour de fête pour tout le monde. Parce que tous ceux qui sont ici, autour de cette piscine, pour eux, ce n'est pas la fête. Ils n'entendent que le bruit, mais ils ne peuvent pas être participants. C'est un espèce d'hôpital à ciel ouvert que l'on a là, autour d'un bassin qui est alimenté par une source. Et il semble que ce bassin existe encore, qu'on en ait retrouvé trace. Probablement des eaux à caractère un peu thermal qui sortent de cette source, avec des rejets de gaz périodiques qui font que l'eau de temps en temps s'agite et qui a donné lieu à une espèce de superstition qui est que si on arrive au moment où l'eau est agitée, c'est peut-être un ange qui l'agite, cette eau, et donc elle a un pouvoir de guérison particulier, cette eau. C'est la raison pour laquelle, pour certains qui ont des vieilles traductions de la Bible, vous avez à la fin du verset 3 et au verset 4 cette espèce de commentaire que ces gens attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui est descendu le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Il s'avère que cette mention ne figure pas dans la plupart des anciens manuscrits de l'évangile de Jean les plus fiables, et donc dans les traductions modernes, elle n'a pas été reprise ou elle a été mise entre crochets peut-être dans certaines de vos Bibles. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas lue. Mais il s'agissait donc bien d'une superstition, et dès le début de l'Église primitive, Tertullien par exemple, dans son commentaire, disait que ce n'était qu'une superstition. Nous sommes ici face à un homme. Il n'est pas fait mention de son nom. Il n'est pas fait mention de son âge. Il n'est pas fait mention de son origine, de ses attaches ou quoi que ce soit. La seule chose qui est mentionnée à son propos, et c'est ce qui lui confère toute son identité, c'est que c'est un paralysé de 38 ans. Depuis 38 ans, l'ancienneté de sa maladie. C'est ça qui lui confère cette identité. Et Jésus va porter attention sur cet homme, une attention particulière, personnelle, une attention qui est informée. Jésus savait déjà d'avance, en s'adressant à lui, que cet homme était malade depuis très longtemps. Et Jésus, de la désespérance, il va faire naître l'espérance. Sur un seul ordre, d'un homme couché, il en fait un homme debout. Un homme qui désormais porte la paillasse qu'il l'a portée pendant 38 ans au bord de cette piscine. Pour celui qui arrivait toujours trop tard et qui ne pouvait pas faire d'effort personnel pour sa guérison, eh bien Jésus va faire venir la guérison à lui et il va les lui accorder gratuitement et uniquement par grâce. Pouvons dire beaucoup de choses à ce sujet-là. Et il y a là déjà nombre de sujets d'encouragement, parce que les leçons que nous pouvons tirer de cela, et ce n'est pas là-dessus que je vais passer le plus de temps, c'est que Jésus a une considération particulière pour l'affligé. C'est que Jésus donne de l'espoir là où il n'y en a plus d'espoir. C'est que Jésus remet en mouvement ce qui est figé par la maladie. Jésus redonne vie là où il y avait une expression de la mort. Cet homme ne bougeait plus sur ce matelas depuis 38 ans. Jésus redonne de l'avenir là où il n'y en a pas de l'avenir. Et tout ça est susceptible de nous encourager chacun dans nos situations personnelles d'ores et déjà. Mais je voudrais porter et accentuer un peu plus mon attention sur cette double interaction que l'on voit ici dans ce texte entre Jésus et cet homme. D'abord, les versets 6 à 8 que nous avons ici et que je vais relire. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Quelle phrase curieuse que Jésus prononce ici. Parce que Jésus reste délibérément et durablement incognito. Ce n'est pas très habituel non plus dans ses miracles. Très souvent, il se révèle ou il est d'emblée reconnu comme celui qui a la puissance et le pouvoir d'accorder la guérison. Et il reste ici dans le secret. Est-ce que c'est pour mieux faire jaillir justement l'authenticité du cœur de cet homme ? Jésus se méfiait vraiment de tous ces enthousiasmes qui pouvaient naître, ces enthousiasmes d'un instant, ces adhésions très superficielles de la part de tous ces gens qui le voyaient faire des miracles ou qui étaient en quête de miracles, qui attendaient que ça et qui, dès que le miracle accompli, ne pensaient plus à Jésus, ne le suivaient pas. Jésus pressentait, peut-être, en posant cette question et en restant justement incognito, pressentait peut-être qu'il y avait au fond du cœur de cet homme des filtres, des résistances qu'il fallait faire ressortir pour vraiment aller au but. Et Jésus va se limiter à trois phrases. Une phrase d'interrogation que nous venons de dire là, une phrase de guérison au verset 8, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche », et nous le verrons un petit peu plus loin au verset 14, une phrase d'exhortation. Curieuse question donc, avant d'aborder la réponse. Jésus interroge la volonté de cet homme. Il sait, Jésus, qu'il a le pouvoir de le guérir, mais cet homme le veut-il vraiment ? Le veut-il vraiment ? Ce n'est pas fréquent que les auteurs des évangiles mentionnent l'ancienneté de la maladie que Jésus va guérir. Et ici, il est bien insisté, 38 ans. 38 ans, guérir, est-ce qu'il le veut encore, vraiment, cet homme ? Jésus connaît parfaitement le cœur de l'homme. Il sait tout ce qui peut s'y installer pendant ces 38 années d'immobilité, de méditation, de confrontation à l'échec constant lorsqu'il s'agit d'aller plonger dans la piscine. La situation n'est plus la même que s'il était paralysé depuis 3 jours, par exemple. La situation, elle est maintenant figée. Et Jésus ne va pas être déçu par la réponse de cet homme. Curieuse question, mais curieuse réponse aussi de la part de cet homme. Là où on s'attendrait à un sursaut d'espoir et dire « mais bien sûr que je le veux », que répond cet homme ? « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Un homme qui est dans une dynamique d'échec constant. Jésus, il interroge le besoin, l'urgence, l'impériosité, la volonté de guérir. Et l'homme, il répond par quoi ? Il répond sur la base d'un horizon qui est complètement limité, cloisonné, restreint. Il répond sur le seul moyen qu'il connaisse pour guérir, l'eau du bassin. Jésus parle de quelque chose qui est peut-être possible. L'homme, lui, parle de l'impossible. Il n'a jamais d'aide, jamais au bon moment, jamais assez vite. On touche là aux limites des moyens humains dans lesquels il a porté son attention pendant ses 38 ans. L'eau de la piscine, les limites de la superstition. Il y a de nombreuses personnes qui s'attachent à des superstitions comme cela pour quantité de choses dans leur vie, la prise de décision, des guérisons aussi. Et on voit là la vanité de ces choses qui enferment au lieu d'ouvrir vers une perspective possible de guérison. L'homme n'a pas eu le temps de manifester sa volonté. Et Jésus, sur une parole, le remet debout. Et on voit cet homme qui marche avec sa paillasse sous le bras, mêlé à la foule qui avance également. Et curieusement, le récit s'arrête là, en quelque sorte, pour cet épisode du scénario. Pas de reconnaissance, rappelez-vous, de nombreux miracles. On voit souvenez-vous, les lépreux, celui qui, parmi les 10, revient pour remercier le Seigneur, lui rendre gloire. Pas de reconnaissance, pas d'interrogation. Mais qui es-tu, toi, qui as ce pouvoir de me remettre debout ? Aucun attachement, une espèce d'anesthésie affective. Et Jésus ne l'aide pas beaucoup. Jésus, à ce moment-là, il s'évanouit dans la foule. Et on se retrouve ici dans le récit face à des réponses laconiques, vraiment détachées de la part de cet homme, une des réactions inexistantes. Et on a là, et je ne le développerai pas du tout, les interpellations de ces religieux qui, eux, n'ont comme considération que leur vision traditionnelle du sabbat, plutôt que l'évidence que Dieu, ce jour du sabbat, est précisément en train de travailler et qu'il accomplit des choses extraordinaires pour les hommes. Parce que cet homme, depuis 38 ans, il était connu. C'est le paralysé de 38 ans qui est toujours au bord de la piscine. Et les religieux, on le voit ici, l'obscurité, les œillères dont ils sont habillés, incapables de voir la puissance de Dieu, mais les évangiles constamment nous relatent cette attitude des religieux. Il y a manifestement des résistances dans le cœur de cet homme. Je ne parlerai pas de celles qu'il y a dans le cœur de ces religieux. Qui ne voudrait guérir quand on est malade ? Eh bien, l'expérience nous apprend des choses. Depuis longtemps, les médecins se sont rendus compte que certains traitements tout à fait appropriés ne donnent pas les résultats escomptés chez certains patients. Des gens qui refusent les médicaments qu'on leur propose en leur affirmant que ces médicaments sont pour leur bien, pour leur guérison. Ou qui font des oublis un peu inexpliqués, entre guillemets, de prendre ces médicaments. Ou qui oublient leur rendez-vous. Et on voit là, et ça a été creusé un peu par des psychologues ou des psychiatres, on voit là qu'il y a des explications. C'est que des personnes trouvent dans la maladie parfois des bénéfices secondaires, ce qu'on appelle des bénéfices secondaires à la maladie. Il y en a des bénéfices qui sont conscients. Vous connaissez tous des gens qui peut-être abusent et prolongent des arrêts de travail, sont à la poursuite d'indemnités, profitent d'arrêts de maladies pour travailler au noir ou quoi que ce soit, dans la maladie voient une forme de fuite du travail, de fuite de ses responsabilités, fuite des responsabilités familiales également. Tout ça est très conscient. Mais il y a aussi des bénéfices qui sont beaucoup plus inconscients. Parce que rester dans la maladie, parfois, ça constitue un refuge face à des conflits de la vie qui seraient encore plus insupportables que la maladie. Et inconsciemment, des personnes préfèrent rester dans la maladie plutôt que d'affronter ces conflits. Rester dans la maladie, ça attire parfois une attention, une tendresse, ça confère une identité que l'on n'aurait pas par ailleurs. Lorsque une femme dans un couple est malheureuse et maltraitée par son mari, parfois d'être malade, c'est le moyen d'attirer cette attention et cette tendresse. Parfois, la maladie confère un certain pouvoir sur les autres. Parce que je suis malade, je peux exiger que, je peux demander à ce que des choses soient faites en ma faveur. On peut tenir le même discours, par exemple, par rapport au chômage. Qui ne souhaiterait trouver un emploi alors qu'il est au chômage depuis longtemps ? Ben, on répondrait bien entendu tous, bien sûr. Et pourtant, la réalité montre que c'est loin d'être le cas, que certains s'y complaisent volontiers et durablement pour un certain nombre de bénéfices secondaires qui pourraient être un peu du même ordre que ceux que nous venons d'énumérer ici pour la maladie. J'ai bien insisté, certains et parfois, d'accord ? Pas du tout une généralité, comme semble le faire notre président. Et pour l'homme de ce texte, si on revient à notre texte, qu'est-ce qu'il pourrait en être ? Plus que ses jambes, c'est sa volonté qui est paralysée. Et ça paraît tellement évident. Et de quoi pourrait-il s'agir ? Et là, ce ne sont que des suppositions. Sa réponse montre qu'il est dans un enfermement que j'ai déjà développé tout à l'heure. Il considère que son seul espoir pour guérir, c'est l'agitation de l'eau dans la piscine. Il n'a aucune autre perspective que la foi dans cette superstition pour guérir. La piscine a beau être celle de Bethesda, et Bethesda en hébreu ça veut dire maison de la grâce de Dieu, il n'en a pas la moindre idée, il ne la connaît pas, il n'en a aucune perspective. Une autre forme de résistance qui pourrait habiter cet homme, c'est cette identité que lui donne sa maladie. Il est le paralysé de 38 ans. Et on ne coupe pas facilement avec 38 ans de son histoire, de son scénario de vie, où tous les jours, peut-être, il est porté sur une chaise à cet endroit, on déroule sa paillasse, on le couche dessus, on lui dit « tu bouges plus jusqu'à ce qu'on vienne te chercher ce soir ». Et il y a une force de l'habitude. Il y a une certaine protection à être ici parmi tous ces malades dans la piscine. Il est un peu comme les autres, il est noyé dans la masse de ces malades. Une espèce de sécurité. Parce qu'une fois guéri, il va entrer dans l'anonymat de la foule et on le voit se fondre dans la foule et se retrouver finalement au temple. Une fois sa condition changée, il y a une nouvelle vie à reconstruire. Et après 38 ans, ce n'est pas facile. Vous le voyez avec les gens, par exemple, qui sortent de prison après de nombreuses années. Il n'y a aucune peine, je crois, en France qui va jusqu'à 38 ans. Lorsqu'il s'agit de repartir dans la vie, c'est difficile. Il y a toute une rééducation à envisager. Des horaires, travail, etc. Une famille dans lesquelles se réinsérer. Il y a une vie à affronter à laquelle il ne s'est pas préparé. Il y a une vie spirituelle aussi à reconstruire. Pendant ses 38 ans, il était considéré comme impur, il n'avait pas droit à la participation au culte du temple. Et la première chose qu'il fait, on le voit ici, c'est qu'il va au temple précisément. Maintenant, il va pouvoir rejoindre la communauté des fidèles du temple. Et il faut reconnaître qu'il est plus facile parfois de rester dans la routine de quotidien que de faire face, dans la peur, aux incertitudes de l'avenir. Et j'évoque une quatrième raison peut-être de ces résistances qu'il y a chez cet homme qui ne le font pas bondir sur cette occasion de guérison tout de suite. Peut-être il s'est accommodé peu à peu à l'idée qui était très commune à l'époque que s'il était paralysé, c'était à cause soit de son péché, soit du péché d'un parent. Et on revoit cet argument ressortir dans la bouche des disciples à quel moment ? Lorsque les disciples se retrouvent face à l'aveugle-né, la première question qu'ils ont vis-à-vis de Jésus, est-ce que c'est lui ou ses parents qui a péché pour qu'il soit aveugle ? Et Jésus va leur dire, ni lui ni les parents, c'est uniquement afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Il y avait cette idée qui était très présente à l'époque dans la culture et qui était d'ailleurs entretenue par les pharisiens, les religieux, que la maladie venait systématiquement du péché, soit du sien, soit des parents. Et puis c'est comme ça, il n'y a rien à y changer. Voilà, tu es malade, c'est à cause du péché. Et être libéré de sa maladie, c'est aussi avoir dorénavant à faire face à sa propre responsabilité de ne plus pécher. Et peu à peu, ça nous conduit finalement à ce verset 14, à cette deuxième interpellation de Jésus, cette deuxième interaction. La liberté, le recouvrement de l'autonomie peut faire peur. Et c'est ce que Jésus va lui rappeler précisément. Au verset 14, donc cet homme s'est fondu dans la foule, Jésus est toujours incognito, je vous rappelle un peu le scénario. Cet homme va au temple, il est là-bas dans le temple, et Jésus, semble-t-il, le recherche et s'approche de lui, et il dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur, pardon, qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Franchement, Jésus n'est pas très explicite. Et il jette des phrases comme ça, un peu choc. Hein. Veux-tu être guéri ? Prends ton lit et marche. Et maintenant, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et Jésus ne s'est toujours pas dévoilé. Quelle chose de pire pourrait lui arriver ? La maladie, une autre ou la même que celle-ci, elle est parfois permise par Dieu comme conséquence d'un péché, pour rappeler précisément à la nécessité de résoudre le problème du péché. Je dis bien parfois. Ce n'est pas le lieu, dans le cadre de ce culte, de développer ici la relation maladie, péché, etc., qui apparaît dans l'Écriture. Mais Jésus, à deux reprises au moins dans les Évangiles, a très clairement dit que les épreuves, le malheur, la maladie ou le péché, dans Luc au chapitre 13 et dans Jean au chapitre 9, pour ceux qui veulent des références, que ce n'est pas un lien systématique, c'est un lien possible parfois, et c'est un lien qui n'est pas même fréquent. Sinon, nous serions tous ici qu'une communauté de malades, si la maladie était attachée uniquement au péché. Je pense que nous en convenons tous. Le péché comporte des conséquences bien pires que la maladie. La perdition éternelle en est la conséquence, et cette conséquence, elle est systématique, elle est incontournable sans le pardon que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Et ça, il faut nous en souvenir. Et lorsque Jésus lui dit « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire », c'est certainement à cela qu'il veut faire allusion. Ne pêche plus. Jésus l'a dit également à la femme adultère, rappelez-vous à la fin de l'entretien. Lorsque Dieu a agi en nous par Jésus-Christ, il attend quelque chose. C'est la sainteté qu'il attend. Exigence impossible. Ne pêche plus, mais qui serait capable de dire « Ok, Jésus, je ne pêche plus ». Qui serait capable de le dire ? Personne. Et sans la conscience de la grâce de Dieu, sans la conscience que nous pouvons être pardonnés de notre péché quotidien, ces incidents dans nos vies régulièrement qui interviennent ou de désobéissance au Seigneur alors que nous ne voulons pas, alors que nous sommes habités par ce désir précisément de ne plus pécher et que nous n'y arrivons pas, comme disait l'apôtre Paul, « Je veux faire le bien, je fais le mal ». Et c'est terrible. Si nous n'avons pas conscience que nous avons un Dieu qui pardonne, un Dieu qui restaure, un Dieu de grâce, nous ne pouvons pas vivre sous cette exhortation du Seigneur, sous ce commandement « Va, ne pêche plus ». Jésus, c'est le cœur qu'il est en train de viser ici, après s'être occupé du corps. Et c'est en cela que ce miracle de guérison constitue un signe, comme dit l'apôtre Jean à propos de ces sept signes, un poteau indicateur qui pointe vers le cœur, qui pointe vers le péché, parce que c'est des maladies du cœur que le Seigneur veut que nous guérissions. C'est de cela dont il veut guérir cet homme. Et Jésus a souvent entremêlé ces deux notions, salut, guérison, maladie, péché, dans ses propos et dans ses actions. Et ça nous amène à nous poser une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Qu'est-il advenu de cet homme ? Il y a une chose que le texte nous montre, c'est qu'entre le verset 13 et verset 14, cet homme a découvert qui était Jésus. Est-ce que Jésus lui en a dit plus que ce que l'Évangile nous rapporte ici et qu'il s'est dévoilé ? Ou est-ce qu'il a eu simplement les yeux ouverts sur la base de peut-être tout ce qu'il avait entendu de Jésus, cet homme qui était capable de guérir, certes, mais qui était surtout capable de s'adresser à la question du cœur et à la question du péché dans le cœur? Est-ce que c'est ainsi qu'il l'a découvert? Est-ce que tous les indices qui étaient autour de lui lui ont permis de découvrir cela? Et je vous rappelle quelques ces indices. C'était un jour de fête religieuse. C'était à Jérusalem. C'était près d'une porte qui s'appelle la porte des brebis. Et on dit que c'était par cette porte, qui était toute proche du temple, qu'arrivaient les troupeaux de brebis, d'agneaux, que l'on allait sacrifier dans le temple. Et puis c'est dans le temple que ça se passe, cette discussion, après avoir été guéri. Ce lieu où étaient accomplis les sacrifices pour la culpabilité du peuple. Est-ce que toutes ces dimensions, Bethesda aussi, la maison de la grâce, est-ce que ça a fait écho dans sa tête ? Et qu'il a eu pris conscience de la grâce, tout cela pointait vers la nouvelle alliance, vers le fait que l'ancienne alliance était périmée, qu'en Christ arrivait une nouvelle alliance de pardon, de restauration et de salut beaucoup plus définitif. Est-ce que cela a fait écho dans son cœur ? Le texte ne nous dit rien. Il ne nous dit qu'une chose, c'est que cet homme s'en alla. Est-ce qu'il s'en alla triste ? Est-ce qu'il s'en alla heureux de son salut ? On ne sait absolument pas. Ce miracle de Jésus, ce récit nous laisse sur ces interrogations. Et c'est là-dessus peut-être que je veux aller un tout petit peu plus loin et terminer. Quelles applications actuelles pouvons-nous tirer au-delà de tout ce que Jésus a fait, de factuel que j'ai évoqué tout à l'heure ? Cela tourne autour de cette question et c'est cela, moi, qui m'a habité quand je pensais à cette prédication sur ce signe de Jean. Veux-tu être guéri ? En somme, la question qui nous est posée, c'est veux-tu être changé ? Veux-tu être sauvé ? Et il y a une double destination à cette question. Changer pour être sauvé. C'était probablement le propos de Jésus quand il lui a parlé de péché et quand il lui a laissé entrevoir la notion de grâce qui est attachée dans l'Écriture. Quelle résistance, nous aussi, comme cet homme, et on peut retrouver les mêmes au fond de notre cœur dans chacune de nos situations, quelle résistance au fond de nous nous affrontons par rapport au salut ? De quels bénéfices secondaires jouissons-nous pour ne pas accepter le salut et rester dans notre condition de péché ? Il y a ici même sur ces bancs des personnes qui depuis, peut-être pas 38 ans, mais X années, des décennies peut-être, entendent le message du salut. À quoi sont-ils à ce point attachés pour ne pas se tourner vers le Seigneur ? Est-ce si difficile de rompre avec des habitudes ? De couper avec une ancienne vie qui a été marquée par le péché, par l'autonomie vis-à-vis de Dieu, pour ne pas se tourner vers le Seigneur qui nous offre le salut et le pardon. Est-ce si difficile ? Est-ce une résistance consciente ? Est-ce une résistance inconsciente que de nous dire, mais dorénavant, il faudra, comme Jésus l'a dit à ce paralysé, ne pêche plus ? Mais ce chemin du dorénavant, nous l'engageons avec Christ, nous l'engageons avec la présence de l'Esprit de Dieu en nous, qui nous aide à ne plus marcher, à ne plus pécher, à marcher dans la sainteté, et lorsque nous péchons et tombons, à nous tourner vers le Christ rédempteur qui nous pardonne, parce qu'à la croix, il a porté ses péchés. De quelle ignorance sommes-nous habités pour ne pas réaliser que, comme Jésus l'a dit, il y a pire que le péché, il y a pire que la maladie, pardon. Il y a la perdition éternelle en relation avec le péché. On ne se convertit pas sous la menace, mais on peut venir au Seigneur parce qu'on a pris conscience que notre condition est une condition qui nous mène dans une impasse, comme cet homme couché sur sa paillasse qui attendait qu'on le mette dans l'eau et que ça ne venait jamais. La peur de ne plus obéir à ses propres satisfactions dans sa vie. La peur de devoir renoncer à des péchés qui sont là, bien cachés, au fond de notre cœur. La peur de ne pas arriver à maintenir notre fidélité. La peur de je ne sais quoi. Ce texte nous place face à une question de ce point de vue. Veux-tu être sauvé ? Et c'est Dieu qui nous interroge dans sa parole. C'est un signe, ce miracle. C'est un poteau, non plus indicateur seulement, un poteau d'avertissement. Une autre perspective. Ce texte nous interroge, nous qui sommes sauvés, sur le fait que nous avons besoin de changer. Veux-tu, si tu es sauvé, être changé de la part du Seigneur ? Dieu nous montre qu'à partir du moment où le salut nous est acquis, il y a une entreprise qui ne connaît pas de fin, qui est celle de ce changement permanent que le Seigneur veut opérer en nous. Changement dans notre caractère, changement dans nos habitudes, changement dans nos relations, changement dans notre vie de famille, dans notre vie conjugale, dans notre comportement avec nos enfants, il y a eu des prédications sur ce sujet récemment, changement dans nos pensées secrètes, changement dans notre façon d'envisager la vie, nos valeurs, changement dans la façon de prendre nos décisions, changement dans notre fidélité vis-à-vis de Dieu, dans notre piété, changement dans notre service, changement dans notre témoignage. Il y a de multiples chantiers. Et au travers de ce texte, là encore, interrogation, veux-tu changer ? Il y a en chacun de nous une lutte entre le désir où la conscience du besoin de changer et les forces qui font obstacle, qui font résistance. Je rementionne ici l'apôtre Paul. Je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas, je fais le mal. Il y a cette tension constante en chacun de nous lorsque nous appartenons au Seigneur. Et les résistances, je voudrais y mettre un nom. Il y a la résignation. De toute façon, je suis comme ça. Je l'ai déjà souvent entendu, ça. De toute façon, je suis comme ça, je ne changerai pas. Mais si le Seigneur veut te changer par rapport à ton caractère, par rapport à ce que tu considères tellement ancré en toi, peut-être que tu considères comme génétique, tellement tu t'es identifié à des comportements de péché dans ta vie. Il y a parfois de l'autosatisfaction. Trop souvent, la chair murmure en nous qu'il faut nous accepter, nous aimer tels que nous sommes. Il y a même parfois des prédications qui vont dans ce sens-là. Nous satisfaire de ce que nous sommes. Alors que ce que Dieu veut, c'est à partir du moment où nous sommes sauvés, nous transformer progressivement à l'image parfaite de Jésus-Christ. Quelqu'un y est arrivé déjà ? Qu'il arrête d'écouter ce message. Aucun d'entre nous n'y est arrivé. Et nous avons besoin encore de ne pas nous satisfaire de ce que nous sommes arrivés. Merci au Seigneur pour ce qu'il a déjà changé dans nos vies. Mais nous avons encore besoin de changer. Une autre résistance, il y a de l'immobilisme ou de la paresse. Ah, écoute, j'attends que ce soit le moment, j'attends que Dieu me parle, plus précisément pour réaliser que je dois changer. Il y a de la méconnaissance, il y a de l'orgueil. Ah bon, j'ai besoin de changer ? Je me croyais un gars ou une fille bien. Je croyais déjà satisfaire Dieu en ce que je suis. Il y a de la déception aussi. De toute façon, j'ai déjà tout essayé. J'ai déjà fait des relations d'aide, du conseil pastoral. J'ai suivi des séminaires. J'ai été accompagné pour cela. Je me suis engagé dans de la redevabilité avec un frère ou une sœur, etc. Et ça n'a pas marché, je suis retombé. Oui, tu es retombé, mais tu as encore besoin de changer. Il y a, comme chez cet homme paralysé, de l'obstination à rester attaché à des moyens improductifs qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Oui, je prends sur moi, j'ai confiance dans la nature humaine, j'ai de bons exemples devant moi, voilà, je vais y arriver et j'ai des trucs pour m'aider. Il y a de la peur pour beaucoup d'entre nous, il y a de l'accommodation. De toute façon, je suis tous les dimanches ici au culte, je suis un bon chrétien. Et cette accommodation a occulté le besoin que nous avons de changer profondément au fond de nous. Cet homme, Jésus l'a rencontré dans le temple, dans le lieu de la religion. Et il s'est adressé à son cœur. C'est à l'individu que Dieu s'intéresse. Il y a de la peur, de l'anxiété. Mais où est-ce que ça va me mener, cette affaire ? Jusqu'où ça va aller ? Jusqu'à quoi le Seigneur va me demander de renoncer ? Je n'y suis pas vraiment prêt. Jusqu'où Dieu attend-il que je change ? Mon argent aussi ? Mes loisirs aussi ? Mes relations ? Mon travail ? Mes idoles, en un mot ? Ça aussi, il va falloir changer ? Oui, il va falloir changer ça aussi. Vouloir changer nous place dans une certaine forme d'insécurité, nous place dans une rupture par rapport à notre confort, nous place surtout dans une dimension de foi et de confiance en Dieu. Notre volonté, elle est paralysée, elle est rendue invalide, elle est rendue aveugle par le péché. Et c'est le sens de la plupart de ces signes que Jean va développer dans ses miracles. Elle a besoin que Dieu la restaure véritablement. Chacun de nous, nous sommes appelés à ça. Est-ce que nous y sommes prêts ? Dieu nous interpelle. Veux-tu changer ? Pour ceux qui ne lui appartiennent pas, veux-tu être sauvé ? Sommes-nous prêts à réaliser cette nécessité, à faire tomber nos résistances plus ou moins conscientes ? Ce n'est qu'à ce prix que Dieu pourra réaliser son dessein faire resplendir en nous l'image de Christ. Et c'est son but avec la nouvelle naissance, que Christ resplendisse en nous. Mais cela, ça passe par le changement et par la réponse à cette question. Veux-tu changer ? J'affiche ici trois versets. De l'apôtre Paul, je l'ai cité à plusieurs reprises, c'est le constat. J'ai la volonté et non le pouvoir de faire le bien. De l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, et les paroles d'un homme d'expérience ont du poids. C'est Dieu lui-même qui agit en nous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Nous avons du mal à vouloir. Ça, c'est le processus. C'est Dieu qui peut créer ce processus en nous, ce processus du changement. Et ce dernier verset, toujours de l'apôtre Paul, dans la même épître aux Philippiens, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. » Ça, c'est l'espoir, c'est l'aboutissement final. Notre Dieu peut produire le changement en nous, peut nous aider à le vouloir, et il peut l'accomplir par sa puissance et par le Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Amen. J'aimerais que pendant un temps court, nous puissions méditer un petit peu sur ces paroles de l'Écriture et qu'à l'issue nous chantions un chant, si nous sommes prêts à le chanter, c'est le 182, « Change mon cœur Seigneur ». Je demanderai au groupe de musique et nous resterons assis, si vous voulez bien, pour le chanter dans un esprit de recueillement et de prière, véritablement, « Change mon cœur Seigneur ».
Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile, brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi.